Quel est le contexte avant que l'insurrection n'éclate à Budapest en 1956? À Yalta, en février 1945, les États-Unis et les Soviétiques se sont partagés l'Europe. Staline est mort en mars 1953. Lors du 20e congrès du Parti communiste de l'URSS, Khrushchev prononce en février 1956 un discours secret où il dénonce les méthodes de Staline. Ce discours fait l'objet de fuites et est diffusé dans le monde entier. Le bloc communiste de l'Europe de l'Est en est ébranlé. En juin 1956, une grève éclate en Pologne et est réprimée dans le sang. Bilan, 54 morts et des centaines de blessés. Un ancien dirigeant polonais, Gomulka, victime d'une purge en 1949, est rappelé au pouvoir le 21 octobre. Il annonce une libéralisation du régime le 23 octobre. Que se passe-t-il en Hongrie? Le même 23 octobre, à l'initiative d'étudiants, une manifestation de soutien à la Pologne est organisée à Budapest avec les mêmes revendications de libéralisation. Interdite puis autorisée, cette manifestation d'étudiants, rejoints par des ouvriers, grossit d'heure en heure. Ils sont 100 à 150 000 en début de soirée. La statue de Staline est déboulonnée. Vers 23 h, la police politique, la VH, tire sur la foule massée devant l'immeuble de la radio, où elle cherche à obtenir que soit lue une déclaration. C'est le début de l'émeute. 150 chars et automitrailleuses soviétiques interviennent au petit matin du 24 octobre. Face à eux, quelques milliers de manifestants leur opposent des armes légères et des cocktails Molotov. Les combats font rage plusieurs jours durant. Le 26, le préfet de police Kopaxi et le colonel Malter se rallient aux insurgés. Pendant ce temps, les camarades communistes du RSS préparent la riposte. Elle sera d'une terrible perversité, perversité intrinsèque à cette idéologie totalitaire, comme l'avait qualifié le pape Pie XI dans son encyclique Divini Redemptoris. Comment les soviétiques procèdent-ils? Imre Nagy, communiste modéré, qui avait été écarté 2 ans plus tôt, est rappelé et redevient président du Conseil le 24. Scénario analogue au scénario polonais. Le 28, les chars soviétiques se retirent du centre de Budapest. Le 30, Imre Nagy constitue un cabinet de coalition nationale. Le cardinal Mindszenty, primat de Hongrie, emprisonné depuis 1948 pour espionnage et trahison, est libéré le 31 octobre sur ordre du nouveau gouvernement. Le 3 novembre, des pourparlers s'engagent entre une délégation militaire soviétique et une délégation hongroise menée par Malter, nouvellement promu général. Il s'agit de déterminer les conditions de retrait dans l'honneur des troupes soviétiques. Les discussions doivent se poursuivre en soirée au quartier général soviétique. C'est là que le piège va se refermer. Que se passe-t-il? Le KGB intervient pendant la séance et arrête tout l'état-major de la résistance hongroise. La contre-offensive peut alors être déclenchée. Les chars soviétiques qui ne se sont guère éloignés reviennent dans Budapest avec des renforts constitués entre-temps. Cette fois, les insurgés sont littéralement écrasés. Les appels au secours tardifs de Imre Nagy n'y changent rien. La chape de plomb du communisme se referme sur la Hongrie le 4 novembre. L'insurrection fera 25 000 morts. 15 000 Hongrois seront déportés et 160 000 autres prendront le chemin de l'exil. Le cardinal Mindszenty trouvera refuge à l'ambassade des États-Unis jusqu'en 1971. Imre Nagy se réfugiera à l'ambassade de Yougoslavie, d'où, mis en confiance, il sortira pour être enlevé par le KGB. Lui et le général Malter seront jugés à huis clos et pendus en juin 1958. Pourquoi l'Occident ne vient-il pas au secours de la Hongrie? Parce qu'au même moment, les États-Unis et l'URSS sont d'accord pour stopper l'expédition de Suez engagée par les Anglais et les Français. Il faudra attendre 33 ans, jour pour jour, le 23 octobre 1989, pour que l'insurrection de Budapest aboutisse à la constitution de la République hongroise, État libre et indépendant. Ces jours-ci, 50 ans après, je me devais d'honorer la mémoire des combattants hongrois pour la liberté.